Bravo, scoop!
Wesh, père!
Attention, avant que cette émission ne commence, apprenez qu'un connétable est le premier officier de la maison du roi commandant l'armée.
L'armure.
Le grand connétable crut qu'il allait mourir et dit à son roi:
Sire, vous me voyez sur mon lit de mort et bien affligé car j'endure un cruel remords. M'en revenant de guerre à l'automne de l'année passée, j'ai détourné la reine de ses devoirs d'épouse.
Ah, par exemple, si je m'attendais à ça,
s'écria le roi.
Je vois bien que votre majesté ne me le pardonnera pas.
Écoutez, Gantus, vous conviendrez que c'est délicat. D'autre part, puisque vous allez mourir.
Votre majesté est trop bonne. Voilà comment les choses se sont passées. Revêtu de mon armure encore toute bosselée des grands coups que je reçus à votre service, je m'étais égaré au sortir de la salle des mille gardes et j'errais par les chambres du palais à la recherche d'une issue. Lorsque je rencontrai la reine occupée au coin d'un bon feu, à broder sur une fine toile blanche.
La chemise de mon dernier anniversaire, sûrement. Un chiffre brodé avec une guirlande de marguerite.
Ah, sire, je suis déjà confus, mais c'était bien la guirlande que vous dites. Moi qui suis plus familier des camps que de la cour, je ne reconnus pas d'abord notre gracieuse souveraine dans cette jeune femme très belle, à la taille superbe, au visage d'eau.
Je vous dispense, Gantus, de ces appréciations qui sont autant de crimes de lèse-majesté.
Et après lui avoir demandé mon chemin qu'elle m'indiqua de la meilleure grâce du monde, je me mis à lui parler sur un ton cavalier et que votre majesté m'abreuve de tous les outrages, à la lutiner un peu.
En Moyen-Âge, ça veut dire leur toucher les seins.
Il faut vous dire que j'avais ôté mes gantelets de fer. Mais pouvais-je me douter?
Quand on ne sait pas, on peut se tromper, Gantus.
Toute surprise de ces libertés auxquelles l'étiquette de la cour ne l'avait guère préparée, la reine ne se défendait que par les grâces de la pudeur. Et moi, sans égard à la rougeur de son front, en bon militaire que j'ai toujours été, je m'empressais que plus fort d'avancer mes affaires à la dragonne, enfin. Vous savez ce que c'est.
Bien sûr. Jeu de main, jeu de vilain, mais ne m'avez-vous pas dit que vous étiez vêtu de votre grande armure de fer, Gantus?
Hélas, sire.
Il a mis son armure en fer.
Il a mis son armure, quel con.
Je disais, hélas, mais Que l'expression de mon regret n'abuse pas votre majesté. Car ce fut justement cette armure qui me fit vous trahir et... Vous allez bien comprendre pourquoi. J'avais fini par reconnaître la reine au médaillon qu'elle portait à son auguste corsage et qui, en s'ouvrant, me découvrait votre portrait. Que ne me suis-je enfui dans cet instant-là? Mais j'étais encore enflammé de l'ardeur que j'avais mise à ces premiers jeux et... Je ne sais comment la fièvre qui me brûlait les joues sous ma visière de fer à demi baissée m'inspira d'aussi perfides manières. Le jour, en cette arrière-saison, éclairait faiblement la pièce et la flamme rouge du foyer jetait sur toute chose de vives et mouvantes lueurs qui en déformaient les contours.
Le roi eut un geste impatient et Gantus crut devoir s'excuser d'être aussi disert.
Ce que je dis là n'est pas pour faire de la poésie, mais pour expliquer les circonstances qui facilitèrent ma supercherie. D'ailleurs, la poésie m'a toujours agacé. Quand je prends un sous-lieutenant à faire des vers, je lui colle... C'est 15 jours d'arrêt. C'est réglé. Je n'admets pas.
Voyons, Gantus, venez en fait. Vous pouvez passer d'un moment à l'autre, c'est très pénible.
Oui. Bon. Comme la reine, très inquiète, se débattait entre mes bras bardés de fer. Je relâchai mon étreinte et lui dis en imitant votre voix. Quoi, madame ? Ne connaissez-vous plus votre tendre époux sous son armure de soldat ?
Gantus, vous êtes un répugnant soudard, un abominable traître.
Qu'est-ce que je vous avais dit, votre majesté ? Vous voyez ?
Bien. Bon, et ensuite ?
Le visage de la reine s'éclairait tout aussitôt, tandis qu'elle me considéra avec un peu de surprise. Votre majesté et moi ne sommes pas tout à fait de la même taille. Je suis plus grand, plus large d'épaule.
Pas tellement, Gantus, enfin franchement...
Il est certain qu'on pouvait aisément s'y méprendre la preuve.
Le grand connétable baissa les yeux car il était gêné. Et il y eut un moment de silence.
Gantus ? Gantus ? Oh ! Alors, la suite ?
Alors, mon Dieu, je n'avais plus qu'à tirer les rideaux, à fermer les targets et à me débringuer de mon armure qui commençait à m'oppresser. Entre parenthèses, je vous dirais que stressé. Entre parenthèses, je vous dirais que ce n'était pas commode dans le noir.
Oui. Et Adèle ?
La reine Adèle, que voulez-vous que je vous dise, moi ? Il faisait noir et dans ces instants-là, on n'a pas bien sa tête à soi. Ce que je puis vous affirmer, c'est que la reine n'a rien soupçonné de la substitution. J'ai remis mon armée, mes cuissards et tout le tremblement dans l'obscurité et... J'ai filé. Figurez-vous que je me suis aperçu en sortant que j'avais remis mes genouillères à l'envers, ce qui m'obligeait à marcher les jambes raides. C'est amusant, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Le roi arpentait la chambre en grommelant qu'il était presque déshonoré. Mais comme il avait un grand fond d'optimisme et voyant l'angoisse où se débattait son plus fameux capitaine, il revint au chevet du malade avec de bonnes paroles.
Vous pensez bien, Gantus, que je ne vais pas vous faire mes compliments. Vous vous êtes très mal conduit, ce n'est pas bien. Et je donnerai toutes vos plus célèbres victoires pour rattraper cette malheureuse aventure. Mais puisque vous me dites que vous allez mourir, c'est bon, je vous pardonne.
Sire, vous êtes un grand roi.
Je ne dis pas le contraire. N'empêche, enfin tant pis. Après tout, ce qui importe d'abord, c'est que la reine soit innocente. Pour vous, ne songez plus qu'à faire une bonne fin. Adieu donc. Gantus, et que vos péchés vous soient remis dans l'autre monde, je ne vous souhaite pas d'autre mal.
Votre majesté me rend bien heureux et votre pardon arrive à temps. Voilà que j'entre en agonie.
En effet, vous n'avez pas bonne mine et je ne veux pas vous déranger davantage. D'ailleurs, mon goûter m'attend au palais.
Le roi fit un signe d'amitié à son grand connétable et gagna le carrosse qui l'attendait à la porte. La confession du mourant lui donnait un peu de mélancolie car il aimait tendrement la reine et lui témoignait des soins assidus en dépit d'une certaine froideur dont elle ne se départait jamais à son égard. C'était même avec la plus grande répugnance qu'il avait fait à l'opinion publique la concession de prendre une maîtresse. Tout en roulant vers le palais, le roi songeait que dans sa disgrâce, il était étrangement favorisé puisque la reine demeurait ignorante de son crime et que le seul coupable se débattait dans les affres de l'agonie. Pourtant, l'aventure lui laissait au cœur l'inquiétude d'il ne savait quelle menace incertaine et il se demanda s'il lui convenait d'être jaloux. En descendant de carrosse, le prince convoqua ses plus savants docteurs en philosophie et promit 20 écus d'or à qui saurait le mieux lui définir la jalousie. D'abord, les savants parlèrent tous à la fois dans un vacarme étourdissant où se heurtaient les mots de processus, sentiment, échange, acrimonie, bile et atrabile. Le roi, les ayant menacés de son grand sabre, ils consentirent à parler à tour de rôle et le résultat fut à peine meilleur. Ils s'empêtraient dans des discours sans fin et le roi avait bien envie de leur reprendre leur diplôme. Cependant, un philosophe d'une trentaine d'années, que sa jeunesse condamnait à parler le dernier, s'absentait un moment pour aller consulter un dictionnaire. C'était un garçon avisé qui avait un très bel avenir et quand ce fut à son tour de parler, il dit avec une jolie voix claire « De toute façon, d'une façon tout à fait générale, la jalousie est le chagrin de voir posséder par un autre un bien qu'on voudrait pour soi. »
Voilà qui est parlé. J'ai compris du premier coup.
Et le roi se prit à songer tout bas.
Évidemment, à ce compte-là, je devrais être jaloux de Gantus, mais puisqu'il est mort, ce n'est pas la peine. Les morts ne possèdent rien du tout, la chose est bien connue.
Parfait, jeune homme, je vous accorde déjà les 20 écus d'or.
Le jeune philosophe fit une révérence et poursuivit. Pour répondre plus précisément à la question proposée par votre majesté, j'ajouterai qu'en amour, la jalousie est la passion inquiète d'une personne qui craint qu'on ne lui préfère une autre.
Les autres philosophes étaient tous jaunes de dépit car le roi paraissait fort satisfait. Il commentait en lui-même la définition.
Dois-je craindre que la reine me préfère une autre personne? Mais non, puisqu'elle n'a jamais vu Gantus et qu'à peine sait-elle son nom.
Puis il dit au jeune savant.
C'est très bien, mon garçon.
je viens de découvrir à la clarté de vos définitions que je n'étais nullement jaloux. En conséquence, je vous déclare illustre, je vous fais membre de l'Académie et chevalier de mon ordre de Saint-Antoine qui est le patron des chercheurs, comme vous le savez.
Là-dessus, le roi fit venir ses musiciens et après avoir goûté un pot de rillettes et un vin clairet, il se fit annoncer auprès de la reine. La reine était assise au coin du feu, le teint pâli et dans les yeux une grande mélancolie. Le roi lui prit la main et, comme il faisait toujours, lui tint de tendres et gracieux propos avec des images touchantes et belles dont les grands poètes du royaume lui faisaient une provision quotidienne. Mais la reine ne semblait pas l'entendre.
Adèle. Je suis le guerre signolet. Rêvons à la fraîcheur des sous-bois printaniers. Mon amour est une eau vive qui se perd dans le lac de vos grands yeux de mystère. Je voudrais être une hirondelle.
La reine hocha la tête sans même lui accorder un regard. On voyait bien qu'elle n'avait pas d'entrain à imaginer que son époux se changeât en hirondelle. Il essaya d'autres figures poétiques plus gracieuses encore. Puis, il lui chatouilla le revers de la main avec ses deux doigts, feignant que ce fut une souris qui se montait tout le long de son bras en disant d'une manière rieuse.
Guili guili guili, guili 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 guili, guili guili guili.
Mais pour réponse, la reine ne fit que hausser les épaules.
Ah, madame, je ne comprends rien à votre mauvaise humeur. Je vous dis les plus jolies choses du monde, je m'efforce aux jeux les plus tendres, je suis tour à tour élégiaque, familier, gamin, et vous n'en remuez pas plus que si je vous parlais du budget de l'État. À la fin, les grandes passions se lassent d'une aussi pénible froideur et j'ose vous dire que ma constance est bien près d'être à bout. Si encore il s'agissait d'un accès passager, mais depuis que nous sommes mariés, c'est la même chose et vous allez au plaisir ainsi qu'à l'échafaud.
Alors, la reine parut s'éveiller et ses yeux tristes s'illuminèrent d'un feu sombre. Seigneur, époux, il vous plaît d'oublier, mais par malheur pour moi, j'ai meilleure mémoire.
Comment donc? Du diable, si je comprends.
Soit, n'en parlons plus. Mais cessez alors de vous plaindre, puisqu'à des façons mâles et cavalières, vous préférez ces vains babillages, ces ronds de bras et ces pas de menuet qui plaisent bien sûr aux maîtresses de vos rimeurs et de vos baladins. Guili, 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 guili. Est-ce ainsi qu'on doit traiter une reine, une épouse, une amante? Guili, guili, guili. Effaré par la reine, le roi levait les bras au ciel, mais Adèle, l'œil en feu, se laissait aller à son courroux. Avez-vous oublié vraiment cette soirée d'automne où vous entrâtes, armée, casquée dans mes appartements et sans vous faire annoncer? En cette arrière-saison, le jour déclinant éclairait la pièce d'une lumière avare.
Et la flamme rouge du foyer.
Le roi soupira, jetait sur toute chose de vives et mouvantes lueurs qui en déformaient les contours.
C'est pourquoi je ne vous reconnus pas d'abord sous votre armure. Vous paraissiez plus grand, plus fort.
Oui, l'uniforme avantage toujours un peu.
Et pourtant, lorsqu'après avoir ôté vos gantelets de fer, vous me pressâtes de toutes parts avec des mains hardies. Quel n'était pas déjà mon trouble? Enfin, vous vous fîtes connaître.
Cependant que le prince jurait en sourdine,
putain de mon âne,
la reine fermait les yeux.
Oh, dans votre hâte, vous n'aviez pas pris le temps de retirer ni vos épaulières, ni votre cuirasse. Et j'en demeurais meurtri pendant toute une semaine. Oh, une délicieuse meurtrissure. Vos baisers avaient un goût de fer et de feu.
Faut pas exagérer non plus, Adèle.
Je vous criais mon amour et tendrement. Vous rugissiez mon prénom d'Adèle.
Ah non, c'est trop fort, là.
Niez donc, effronté, petit canaigou. Aussi, aussi bien ai-je perdu tout espoir d'un retour glorieux. Tandis que vous, vous comparez à une hirondelle, à une fontaine, je me résigne à l'accomplissement d'un devoir à jamais dépourvu de cette exaltante dignité qui me fut révélée par un soir de l'automne dernier. Oh. Une hirondelle, non, monsieur, une pie bavarde. Kili, kili, kili. Kili, kili, kili. Et en essuyant des larmes de rage, la reine sortit claquant la porte. Le roi demeura consterné, songeant à la vanité de la philosophie et de ses définitions, car il ressentait maintenant les tourments de la jalousie. Il passa une très mauvaise nuit, hanté par des cauchemars, lui semblant qu'il vit des armures vides caresser son épouse avec des soupirs lascifs et un affreux bruit de ferraille. Le lendemain, une mauvaise nouvelle acheva de bouleverser le roi. Gantus n'était pas mort. Les médecins s'étaient aperçus qu'il souffrait d'une crise de rhumatisme et l'en avaient délivré par le moyen d'une peau de chat bien sèche dont il l'avait frottée pendant toute la nuit. À midi, le grand connétable déjeunait de bon appétit, puis montait à cheval pour s'en aller inspecter l'artillerie. Le roi l'appela au palais et lui dit sévèrement
« Vous m'avez mis dans de beaux draps, Gantus.
Que votre majesté me pardonne, les médecins m'ont guéri sans prendre mon avis.
Oui, mais c'est très ennuyeux. L'aventure que vous m'avez confessée hier soir n'avait presque plus d'importance du moment que vous étiez au cimetière, tandis que maintenant, vous comprenez, pour nous autres, princes, être cocu est une affaire d'État. Vous voilà possesseur d'un secret dangereux. Qui peut dire l'usage que vous en ferez ?
Ah, sire, je suis trop homme d'honneur.
Mon œil, vous n'avez même pas su tenir votre langue devant moi, qui suis pourtant l'époux, alors ?
Le grand connétable se frappait la poitrine et montrait les signes d'un profond désespoir. Aïe !
Ne vous lamentez pas trop non plus, Gantus. Ce que je dis là est pour vous mettre en garde contre un mouvement d'imprudence. Au fond, vous m'inspirez toujours une entière confiance et j'ai même pensé à vous pour un très joli commandement sur mes frontières de l'Ouest. Je suis sûr que vous saurez trouver là-bas l'occasion d'un trépas glorieux.
Un trépas glorieux ? Mais nous ne sommes pas en guerre, Majesté.
Nous le saurons bientôt, Gantus. J'ai l'intention de déclarer la guerre à mon cousin l'Empereur. En rappelant la classe 22, nous aurons une armée suffisante que vous commanderez en second. Dotée de la nouvelle pertuisane que l'on s'occupe de mettre au point. Je suis sûr qu'elle fera merveille.
Gantus se grattait la tête, n'osant protester contre sa nomination de commandant en second, et sa gorge ronflait déjà d'injures contenues à l'adresse du Jean Foutre qui allait diriger les opérations.
Mon cher connétable, vous voilà déçu, mais
tant pis.
J'ai décidé qu'à l'avenir, j'exercerai moi-même le commandement en chef de mes armées. Toutefois, pour vous laisser une certaine liberté dans l'exécution de la manœuvre, j'ai également décidé de conduire les opérations depuis ma capitale. Dès après les formalités de l'ultimatum, l'on ne me verra plus au palais qu'en uniforme de généralissime. Je voudrais, Gantus, que vous voyiez l'armure que je me suis commandée ce matin. Adèle va adorer. Elle est en métal d'Asturbie, au panache bleu et or, la cuirasse et les épaulières ornées de fleurs champêtres et de mignonnes figures de page. Pourriez-vous me montrer dans quelle pièce vous avez fait ça avec ma femme ?
Joigny, dans l'Yonne, en 1902, Marcel Aimé était le dernier d'une famille de 6 enfants. Ayant perdu sa mère à 2 ans, il fut élevé jusqu'à 8 ans par ses grands-parents maternels qui possédaient une ferme et une tuilerie à Villers-Robert, une région de forêt, d'étangs et de prés. Il entre en 7e au collège de Dôle et passe son bachot en 1919. Une grave maladie l'oblige à interrompre les études qui auraient fait de lui un ingénieur, le laissant libre de devenir écrivain. Après des péripéties multiples, il est tour à tour journaliste, manœuvre, camelot, figurant de cinéma. Il publie Brûle-Bois, son premier roman, au cahier de Poitiers, et en 1927, Aller-retour, aux éditions Gallimard, qui éditeront la majorité de ses œuvres. Le prix Théophraste Renaudot, pour La table au crevé, le signale au grand public en 1929. Son chef-d'œuvre, La jument verte, paraît en 1933. Avec une lucidité inquiète, il regarde son époque et se fait une réputation d'humoriste par ses romans et ses pièces de théâtre. Travelingue, Le chemin des écoliers, Clérambard, La tête des autres, La mouche bleue. Ses recueils de nouvelles comme Le nain, Les contes du chat perché, Le passe-muraille font de lui un des maîtres du genre. Marcel Aimé est mort en 1967. Ainsi s'achève LM des meufs.
Une émission culturelle.
Merci Marguerite.
Attaquant culturelle.
Ta gueule, Nige. Voilà, c'était donc.
Encore.
C'est bon. C'est con, mais après Marcel Aimé, ça fout le bordel. Voilà, ainsi s'achève donc.
Attaquant, mais tant que.
C'est bon. Ainsi s'achève. Ainsi s'achève LM des meufs, 395e du nom. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur WFM. Je vous donne rendez-vous demain à 23h, sinon...
Non, mais c'est quoi la maison culturelle?
Tu te tais maintenant.
Mais pourquoi?
Parce que tu te tais.